Bonjour à tous. C'est vraiment aussi une joie pour moi d'être ici. Spécialement ici à Boisdevillers. Je pense que ça fait quelques années que nos deux églises, le TPE et Boisdevillers, on commence vraiment à faire des choses ensemble et vraiment à avoir une connexion entre nous. Spécialement avec le groupe de jeunes, par exemple. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait des camps en commun chaque année. Il y a quelques mois, on a eu l'occasion de travailler ensemble avec l'équipe Jésus Révolution et faire plusieurs activités aussi à la pastorale et où on se voit souvent. Et je suis vraiment heureux d'être ici particulièrement. Je pense, Francesco, tu peux confirmer que nos groupes de jeunes ils s'entendent vraiment bien. Francesco a eu l'occasion hier de venir à notre réunion de jeunesse et c'est vraiment cool qu'on ait une connexion qui commence à se faire et on va essayer d'entretenir ça et de servir Dieu ensemble. Amen. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui un passage de la Bible, un passage qui se trouve dans la Genèse. Donc le titre qu'on peut donner à ce message, c'est « Rien ne te sera impossible si tu es un avec l'Éternel ». Et pour ça, on va voir un passage qui se passe dans Genèse 11. C'est le récit de la tour de Babel. Alors on va le lire ensemble. Il est à l'écran normalement, oui. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent les uns à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qu'ils forment un seul peuple et ils ont une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de la surface, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il dispersa sur toute la surface de la terre. C'est un récit vraiment intéressant, et c'est sûr que quand on pense, avant il n'y avait qu'une seule langue, tout le monde parlait la même langue, et c'est sûr que c'était sans doute plus facile. Parler différentes langues ou ne pas se comprendre, ça peut vraiment amener de la confusion. Avant d'aller en Angleterre étudier, je parlais pas vraiment l'anglais, très peu. J'ai appris un petit peu à l'école, mais c'était pas terrible. Et donc j'ai été là-bas en Angleterre et les premiers mois c'était vraiment pas facile parce que je comprenais pas tout le temps. Des fois j'arrivais pas à me faire comprendre et donc des fois il y avait des moments de confusion où c'était pas évident. Et voilà, au collège là-bas, ils sont habitués parce que chaque année, ils ont des étudiants qui sont pas trop forts avec l'anglais. Et donc, un des responsables nous partageait cette petite anecdote où la langue avait vraiment été une confusion. Donc, je vais vous la raconter. C'était au collège et vous savez qu'on participe aussi aux tâches, on aide à faire le nettoyage, à cuisiner, à aider le cuisiner, à faire différentes tâches pour entretenir le bâtiment et qu'on puisse vivre tous ensemble en communauté. Et donc le cuisinier avait chargé un étudiant de l'aider à éplucher ou couper, je ne sais plus bien, 25 oignons. Donc il lui avait laissé une petite note dans la cuisine qui ressemble à ça. Voilà, 25 oignons. Donc, évidemment, c'était en anglais. Nous, on peut deviner, même si en français, ça ne s'écrit pas de la même façon, on comprend que c'est 25 oignons parce que les mots sont très proches en français et en anglais. Mais cet étudiant à qui on lui avait demandé d'aider et de s'occuper des oignons, lui, si je pense, il était des Balkans, un pays de l'Est, donc il ne parlait pas du tout un petit peu anglais, mais comme il ne parlait pas français, dans sa langue, c'était pas la même orthographe. Donc il savait pas du tout c'était quoi des oignons. Et donc il va dans la cuisine, il trouve cette petite note pour éplucher quelque chose et il va autour et il demande mais c'est quoi ça? C'est quoi c'est quoi un ion? C'est quoi un ion? Et alors on lui répond, on lui montre dans la grosse bassine où tout était stocké. On lui montre, c'est ça. Il fait, ah ok. Et du coup, il croyait que c'était des nions, et donc il en a épluché 250. Donc ils ont dû manger des oignons toute la semaine, cette semaine-là. Donc comme vous voyez, quand on ne parle pas la langue et qu'on ne comprend pas certaines choses, des fois, le langage peut vraiment amener une confusion. Une autre anecdote très, très, très courte. On avait demandé à un étudiant d'aller laver la voiture, donc to wash the car. Mais à cette époque-là, c'était il y a 5-6 ans, l'école avait aussi encore une vache qu'ils utilisaient pour faire du lait, etc. Et une vache, cow, ça, très proche d'une voiture, car. Donc l'étudiant a compris qu'il devait aller laver la vache. Du coup, il a été laver la vache était toute propre, il est revenu, voilà, j'ai fini ma tâche. Et en fait, ben non, la voiture, elle n'est pas encore lavée. Et la vache était toute propre, mais pas la voiture. Donc voilà, c'est vraiment pas évident quand on ne comprend pas, quand on a des confusions avec le langage. Et c'est ce qui s'est passé dans notre histoire. Dieu est descendu, il a brouillé leur langue, et du coup, ils n'ont plus su construire, ils ont dû s'arrêter, et la construction n'a pas pu être achevée. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ce traitement? Pourquoi est-ce que l'Éternel est descendu et a brouillé leur langage? Et ce qui n'est pas facile dans ce texte, c'est que Dieu ne dit pas directement « ils ont fait ça de mal ». Dieu ne le dit pas clairement, c'est à nous d'analyser le texte et de l'interpréter. La seule chose que Dieu nous dit, et on peut le lire ensemble, il dit « Les voici qu'ils forment un seul peuple et ont une seule langue, une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons là et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Donc ça, c'est ce que Dieu dit. Mais pourquoi est-ce qu'il a... Il a vraiment brouillé leur langage. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble ce matin. Vous savez, plusieurs théologiens ont émis des hypothèses ou ont donné des idées. Ça pourrait être à cause de ça ou à cause de ça. Et on est ici dans Genèse 11. Il y en a quelques chapitres après le déluge et l'histoire de l'arche de Noé. Et certains ont dit... Ah, peut-être ils ont construit cette tour très haute, comme ça s'il y avait encore un autre déluge, ils auraient pu aller tout au-dessus de la tour et être protégés en cas d'un déluge. Bon, voilà, c'est une idée qui a été émise, mais c'est sans doute une des moins probables, c'est sans doute pas la raison. Mais voilà, plusieurs hypothèses ont été faites, plein d'articles ont été publiés sur ce texte, etc. Mais je pense que vraiment pour comprendre et voir l'essence de ce texte, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Dieu a agi comme ça, on peut regarder à leur attitude. Quelle était leur attitude lorsqu'ils ont construit cette ville, lorsqu'ils ont construit cette tour de Babel? Leur attitude, ce qu'ils disent, ce qu'on lit dans le texte, au slide suivant. Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Faisons-nous un nom, c'est ce qu'ils disent. Et quand on regarde se faire un nom, l'expression qui est attachée à ça dans le texte en hébreu, c'est se faire une renommée. D'ailleurs, cette même expression, elle est utilisée dans d'autres passages, comme dans Ésaïe ou dans 2 Samuel, se faisant ainsi une réputation éternelle pour te faire un nom. Mais là, on parle, dans les autres passages, on parle de Dieu. Donc c'est vraiment une expression qui est utilisée pour la renommée, pour le renom. Et c'est ce qu'ils utilisent pour se décrire eux-mêmes. On veut se faire un nom. Et on voit que leur attitude, déjà, elle n'est pas saine. Parce que ce qu'ils ont dans leur cœur, le but de leur cœur, leur désir, la priorité sur leur cœur, c'est de se faire un nom à eux. Et on connaît ce verset qui nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. On continue la suite de ce verset qui nous dit « Faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Et c'est vraiment intéressant parce qu'ici on se trouve, comme je vous l'ai dit, quelques chapitres très courtement après l'histoire de Noé et de l'arche. Et une fois que le déluge est passé, que Noé est descendu du bateau avec ses fils, Dieu leur a dit, Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. C'est ce que Dieu va demandé à Noé. Et certains pensent que ici, dans l'histoire de la tour de Babel, leur désir de rester unis à un seul endroit avec une seule langue, c'est pas seulement une idée qu'ils trouvent bien, le fait de vouloir rester au même endroit, mais c'est aussi un acte de désobéissance directe à ce que Dieu demandait à Noé. Que, en effet, leur tour leur aurait permis, dans la plaine, de, comme elle était très haute, de toujours être vue de très loin, et donc à personne de être dispersé et de vraiment rester toujours au même endroit, de former un seul empire qui est fort et puissant. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'on se rend compte que le mot « afin de », en réalité, dans le texte en hébreu, il a plus la signification de « de peur de ». Et je ne sais pas pourquoi, dans beaucoup de nos versions en français, c'est « afin de » qui est utilisé, alors que par exemple, dans presque toutes les versions en anglais, le mot est « de peur de », et en hébreu, c'est ça aussi. Et donc, j'ai trouvé cette version en français courant, qui nous dit « ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Donc, elle est déjà un peu plus juste du sens, et on a vraiment cette connotation qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient éviter d'être dispersés. Ils ne voulaient pas. Donc on voit que non seulement leur cœur est orgueilleux, mais aussi ils font ça pour éviter quelque chose. Et quand on se rend compte, on analyse, c'est très intéressant de voir que la chose précise qu'ils ne voulaient pas que ça arrive, donc entre autres d'être dispersés, c'est la chose qui arrive quand Dieu agit. Donc Dieu agit, il brûle leur langue, et ce qui arrive, c'est qu'ils sont dispersés, parce qu'on voit au verset 8, « L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. » Donc, si on veut résumer, on a un peuple qui est rempli d'orgueil, qui n'a pas une bonne attitude, qui agit dans le but de s'opposer à ce que l'Éternel a demandé, qui est de remplir la terre, et ils font quelque chose pour l'éviter. Dieu voit ça, Dieu agit, et la conséquence, ils sont dispersés. Dieu les dispersa loin de la surface de la terre. Et je pense là qu'il y a vraiment un principe qu'on doit prendre, qu'on peut retirer de ce passage, c'est que personne ne sera jamais en mesure d'arrêter Dieu et ses plans. Personne, on peut mettre le prochain slide à l'écran, personne ne sera jamais en mesure d'arrêter Dieu et ses plans. Ce que Dieu a prévu, ce que Dieu veut faire, personne ne peut l'arrêter. Ni même l'homme, ni même les démons, ni même Satan lui-même. Ah, ils peuvent essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais au final, c'est toujours ce que Dieu a décidé qui s'accomplit. Et on le voit dans la parole, l'ennemi, il a essayé avec Jésus, il a essayé avec les disciples de vraiment les détourner de la volonté de Dieu. Mais peu importe ce qu'il essaye de faire, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Parce que Dieu est un Dieu souverain. Amen. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot, aussi dans notre vie. Et c'est vraiment cela qu'on peut prendre pour nous et appliquer dans notre vie actuellement. C'est que ce que Dieu a prévu dans nos vies, ses plans, ses promesses, si nous restons fidèles, elles vont s'accomplir. Parce que Dieu, c'est celui qui a contrôle sur toute chose, c'est celui qui a contrôle sur nos vies, c'est celui qui est souverain. Et donc rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a promis, d'accomplir ses plans. Les gens peuvent être contre nous, l'ennemi peut s'acharner, mais si nous sommes fidèles, ce que Dieu a promis, ce qu'il a prévu, cela arrivera. Un autre exemple qu'on peut voir dans la parole à propos de cela, c'est l'exemple de Jonas. Dieu voulait que la repentance soit prêchée à Ninive. Donc Ninive, c'était cette ville, vraiment, il est mis dans le livre de Jonas, la méchanceté était montée à l'Éternel, parce que cette ville, vraiment, elle faisait des choses atroces que l'Éternel a en horreur. Et l'Éternel, il se disait, ça doit arrêter, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Mais il voulait quand même que la repentance que leur soit prêchée, que Dieu leur soit prêché une dernière fois pour qu'ils aient une chance de se repentir. Et c'est ce que Dieu va demander à Jonas. Et ici, Jonas, lui, il va même pas du tout obéir, il va faire complètement l'opposé, il va partir dans une direction complètement opposée. Et puis on connaît les événements, il y a Dieu qui va provoquer différents événements avec le poisson qui va avaler Jonas 3 jours, et puis Jonas va être recraché du poisson. Et finalement, Jonas va se rendre compte que voilà, si Dieu l'appelle, il doit y aller. Et ici, on a encore un exemple. Dieu voulait, Dieu avait prévu que la repentance soit prêchée. Dieu avait prévu que une dernière chance allait être donnée à cette ville de Ninive. Et donc Dieu a fait en sorte dans la vie de Jonas que même si Jonas ne voulait pas, que Jonas ait désobéi, Dieu a conduit les choses, Dieu a décidé, Dieu a fait en sorte. Et pour finir, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et Ninive a été sauvée à ce temps-là. Ninive a été sauvée. Donc on voit vraiment ici que c'est ce que Dieu décide qui s'accomplit. C'est lui qui a le dernier mot. Après, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a alors toutes ces épreuves? Pourquoi est-ce que je traverse tant de difficultés dans ma vie? Pourquoi est-ce que je passe à travers cela ou ceci, si c'est Dieu qui a vraiment, qui contrôle, qui est souverain? Si on voulait vraiment aborder ce sujet-là, dire pourquoi on a des épreuves dans nos vies, je pense que ça prendrait aussi le temps d'une autre prédication. Et on ne va pas s'aventurer dans cette méditation-là aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que nous devons savoir et ce que nous devons retenir pour nos vies, c'est que même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, Dieu est souverain et Dieu est au contrôle. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment nous proclamer à nous-mêmes, le proclamer et le vivre dans notre vie. La parole dit « Je le suis » dans Ésaïe, « Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer ?» Ah, c'est très clair. Qui pourrait s'y opposer ? Un autre dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, dans la version Summer. Là, le Christ est placé bien de tout dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu est au-dessus de toute autorité. Et on a des tas de versets qui nous le rappellent, qui nous disent que c'est Dieu, c'est lui qui est au contrôle. Pas l'homme, pas Satan, pas les démons, mais Dieu est au contrôle. Amen. On continue un peu plus loin dans cette histoire de la tour de Babel, où il nous dit, au verset 6, et il dit, les voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Ici, c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle, qui dit de ce peuple que rien ne les retiendra, rien ne leur sera impossible parce qu'ils sont un. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui m'interpelle. Où je me dis, si on a un peuple qui est orgueilleux, qui a quelque part une attitude qui n'est pas saine au début, qui fait quelque chose pour glorifier son nom, pour sa renommée personnelle. Si on a ce peuple qui est orgueilleux, et Dieu dit d'eux, hein, ce peuple-là, parce qu'ils sont un, parce qu'ils se sont unis, rien ne leur sera impossible. Tout ce qu'ils ont projeté, ils pourront l'entreprendre. À combien plus forte raison alors, nous, si nous sommes un avec Dieu, avec celui qui est souverain sur toute chose, si nous sommes un avec lui, à combien plus forte raison, rien ne sera impossible aussi. Et c'est ce que j'aimerais développer aussi avec vous, c'est l'importance d'être un avec Dieu. Et si on a ce peuple qui peut entreprendre tout, parce qu'ils sont un, mais nous aussi on est appelés à être un avec lui. Et d'ailleurs, la parole nous encourage à cela. Il est mis dans Jean, Jésus qui parle, ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Jésus, il est un avec le Père. Un autre verset dans Jean, afin que tout soit un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce verset est clair. Nous aussi, nous sommes appelés à être un avec Jésus et le Père. Ce verset qui dit, afin qu'eux aussi soient un en nous. Autrement dit, nous soyons un avec Dieu. Et j'aimerais ici aborder avec vous plusieurs aspects de être un. J'ai développé ici trois points sur le fait d'être un avec Dieu, et c'est pas les seuls trois points. On pourrait en méditer d'autres, en apporter d'autres. Ici, c'est trois que Dieu a mis sur mon cœur et que je vais partager avec vous. Pour être un avec quelqu'un, il faut connaître cette personne. Sans connaissance, on ne peut pas être un. Et Jésus, il connaissait le Père. Jésus connaissait le Père. Et on le lit ensemble. Moi aussi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. On ne peut pas être un avec Dieu si on ne connaît pas Dieu. C'est simple. Si on n'apprend pas à le connaître, on ne peut pas vraiment être un avec lui. Un autre verset dans Jean nous dit, mais nous aussi, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Il est venu pour nous donner l'intelligence. Pourquoi ? Pour connaître le vrai Dieu. Un autre verset qui dit encore, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce verset, il est même plus sérieux, c'est connaître Dieu, c'est pas juste quelque chose de bien qui sera bien pour nous, mais c'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître plus quelqu'un ? Je pense simplement en passant du temps avec la personne. Si on ne passe jamais de temps avec la personne, ça va être dur de la connaître. Et avec Dieu, c'est la même chose. Si on passe pas de temps avec Dieu, ben c'est difficile de vraiment apprendre à le connaître intimement, en profondeur. Et comment passer du temps avec Dieu ? Ça aussi, la réponse est, je pense, est simple, c'est à travers la Bible. La Bible, c'est la façon, une des façons que Dieu se révèle à nous, vraiment. Et à travers la lecture de la Bible, on peut apprendre à le connaître plus. En passant du temps dans la prière intime avec lui, où juste on lui parle, on le loue, où on prend ce temps, que ce soit le matin ou le soir dans notre journée, où on apprend à connaître Dieu plus, où on est intime avec lui. Je pense que c'est des choses importantes. Si on ne fait pas ça, si on ne prend pas du temps pour méditer, pour prier avec Dieu, pour passer du temps avec lui, c'est difficile de vraiment être un avec lui parce qu'on ne le connaît pas vraiment. Et la question qu'on peut se poser pour nos vies, c'est est-ce que je connais Dieu ? Est-ce que je suis un avec lui ? Est-ce que dans ma vie, je ne devrais pas mettre des choses en place pour plus le connaître, pour vraiment être plus intime avec lui ? Un deuxième point, une deuxième caractéristique d'être un avec quelqu'un, c'est être attentif à sa voix. Et il est dit dans Jean, lorsqu'il les a toutes fait sortir, toutes, il parle des brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis connaissent sa voix, et elles la reconnaissent, et c'est pour ça qu'elles le suivent. Et Jésus utilise l'exemple des brebis et du berger, et ça parlait vraiment beaucoup aux gens qui l'écoutaient à cette époque-là, parce que, surtout en Israël, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de bergers, beaucoup de brebis. C'était quelque chose de courant, vraiment, d'avoir des bergers, des brebis. Donc les gens savaient comment ça se passait. Les gens connaissaient le rôle du berger. Et quand Jésus leur dit, les brebis suivent leur berger parce qu'ils connaissent sa voix, et que vous êtes appelés à connaître ma voix comme cela aussi, les gens, ils comprenaient directement ce que ça voulait dire. Parce qu'ils savaient comment fonctionnait un berger. Et donc, pour nous, peut-être on est moins familier avec les brebis et un berger. J'ai réussi à trouver sur Internet une petite vidéo qui nous montre comment la relation avec entre les brebis et le berger. Donc, Francesco, on peut quitter le PowerPoint et mettre la vidéo qu'on a préparée avant. Alors, pour vous expliquer, donc c'est des amis qui visitent un fermier, je pense que c'est en Norvège, et le berger va expliquer comment il appelle ses brebis. Tu dois quitter le PowerPoint d'abord et ensuite tu glisses la vidéo et tu pourras la voir. Donc le berger va expliquer comment il appelle ses brebis à ses invités, ses amis qui sont venus le voir. Il va leur dire la phrase exacte qu'il utilise pour appeler ses brebis et il va leur proposer utiliser la même phrase que moi et essayer d'appeler mes brebis. Et chacun des invités va essayer et on va voir ce qui va se passer.
One more time.
Oh, one is. That was good.
Yeah, you just made him go away. Was that cool or what?
Yeah.
You will never have the same again.
Alors on peut arrêter la vidéo. Donc quand Jésus il parle à ces personnes, il leur dit, les brebis elles reconnaissent la voix du berger et vous aussi vous êtes appelés à reconnaître ma voix. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les brebis elles sont pas distraites par la voix d'étrangers ou par, même si c'est les mêmes mots que le berger utilise, mais vraiment, les brebis reconnaissent le berger. Et nous aussi, on est appelés à être attentifs à la voix de Dieu et à reconnaître sa voix. Si on n'est pas attentif à sa voix, si on ne peut pas reconnaître sa voix, on ne peut pas vraiment être un avec lui. Et ici, ce qu'on remarque, c'est que les brebis, elles ne sont pas familières juste avec les phrases ou les mots que le berger utilise, mais elles sont vraiment familières avec sa voix, avec son accent et avec la tonalité de sa voix. Et nous aussi, on peut appliquer ça dans nos vies, c'est que, voilà, est-ce qu'on est capable de reconnaître l'accent ou la tonalité de la voix de Dieu? Ici, ben, évidemment, c'est un peu une image, mais vous savez que Dieu utilise différentes façons de nous parler. Et est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est assez proche de lui, est-ce qu'on est un avec lui pour être attentif à sa voix? Vous savez, je pense que il y a déjà eu des témoignages, et ça arrive hein, souvent, ça arrive que Dieu parle directement à quelqu'un, et on a déjà eu des témoignages où quelqu'un nous disait, voilà, j'étais dans un moment de prière et j'ai vraiment entendu comme une voix audible qui me parlait, et je savais que c'était Dieu et qui m'a demandé quelque chose, ou peu importe ce que Dieu partageait à cette personne, ça arrive. Je pense, encore, oui, il y a des témoignages. Dieu utilise cette façon pour nous parler, d'une façon audible comme ça. Mais il y a plein d'autres façons que Dieu nous parle, que Dieu utilise pour nous communiquer quelque chose, pour mettre quelque chose sur notre cœur. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que reconnaître la voix, c'est seulement d'une façon audible. Et c'est là que c'est intéressant de faire l'analogie avec les brebis, c'est qu'elles reconnaissent l'accent, elles reconnaissent la tonalité, et Dieu des fois il met simplement quelque chose sur notre cœur, et on va pas entendre une voix audible. C'est pas quelque chose de mystique où on est en prière, et puis quand on est en prière, il y a quelqu'un qui vient et une voix qui nous dit, voilà, c'est Dieu qui parle. Des fois ça arrive, Dieu nous parle clairement comme ça, mais souvent aussi Dieu nous parle d'autres façons. Il met juste quelque chose sur notre cœur, et est-ce qu'on est assez proche de lui, est-ce qu'on est assez intime pour se rendre compte qu'au fait, ben, c'est pas une pensée qui vient de nous, mais c'est un encouragement que Dieu nous met sur notre cœur pour quelqu'un, ou une pensée qui encourage notre âme, que Dieu nous met en nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'étais en Angleterre, en deuxième année, on était dans une réunion de prière. Et ça arrive souvent lors de nos réunions de prière qu'on se déplace et on aille voir un étudiant pour lui partager un verset ou pour lui donner un encouragement. Et c'était des choses que moi personnellement je ne faisais pas trop, même si voilà, ça se faisait pendant nos réunions parce que Dieu était là et nous parlait. Mais à un certain moment j'étais assis en train de prier et je voyais une amie et je me suis dit, ah mais cette parole là ça pourrait l'encourager si je lui disais. Mais Rien de plus là. J'ai eu cette pensée, si je lui disais ça, ça pourrait l'encourager. Et finalement, je me suis dit, ok, je vais aller lui dire, je vais lui partager cette pensée que j'avais. Et puis voilà, la soirée s'est terminée, on en a pu reparler. Et longtemps après, elle m'en a reparlé, elle m'a dit « Ah, tu te souviens cette soirée-là quand tu m'as partagé ça ?» Et moi, j'avais déjà oublié les mots que j'avais utilisés, mais elle se souvenait mot à mot de ce que je l'avais dit. Elle m'a dit bah, « J'étais dans une difficulté, je vivais ça, et vraiment, ça m'a encouragé, ça m'a parlé, c'est Dieu qui me, comme si Dieu me répondait. » Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit « Waouh, au fait, c'était... » À ce moment-là, je ne me suis même pas rendu compte que c'était vraiment Dieu qui avait mis ça sur mon cœur. Moi, je croyais que c'était juste un encouragement que j'avais eu, mais c'était Dieu, au fait, qui était là et qui avait placé quelque chose sur mon cœur. Et ça m'a... Je me suis rendu compte, ben oui, il faut vraiment que moi aussi, j'apprenne à être plus attentif à ce que Dieu communique, parce que Dieu continue à parler. Dieu n'est pas silencieux, Dieu continue à parler. Et imaginez si je m'étais dit, oh non, c'est juste un truc qui me passe par la tête, pas besoin d'aller le partager, ben... Voilà, j'aurais loupé la bénédiction. En tout cas, là, j'aurais pas été l'instrument que Dieu aurait voulu que je sois. Et simplement, il faut pas tout mystifier et se dire, voilà, quand Dieu parle, c'est seulement via des prophéties. Et j'ai rien contre les prophéties. C'est même pas que j'ai rien. Je suis pour les prophéties. C'est des bonnes choses. Mais Dieu utilise aussi d'autres manières. Il met des choses en nous. Et je pense que si nous sommes proches de lui, nous sommes capables de reconnaître sa voix. Et c'est quelque chose dans ma vie que j'ai réalisé et que je veux développer et que je vous encourage aussi à développer. Un troisième point qui concerne être un avec Dieu. On a un exemple dans la Bible, dans la Genèse, où Dieu nous parle d'être un. Ce n'est pas être un avec lui, mais il nous parle d'être un avec son mari ou son épouse. Et on va lire le texte ensemble. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Donc ici, clairement, nous, notre analyse, elle porte sur être un avec Dieu, mais je pense qu'on peut quand même tirer un enseignement de ce verset qui parle de l'unité entre l'homme et la femme. Ce verset nous explique que pour être un, l'homme devra quitter son père et sa mère. Et c'est vraiment le troisième point que je voudrais développer avec vous, c'est que pour être un avec quelqu'un, il faut parfois quitter certaines choses. Il faut parfois laisser de côté certaines choses. Parce qu'au bout du compte, c'est des choses qui nous empêchent d'être un, qui nous empêchent d'être plus intimes avec la personne qu'on veut l'être. Alors, j'ai pas vraiment d'expérience en termes de mariage, si ce n'est ce que j'ai pu voir autour de moi, dans la famille ou quoi que ce soit, mais je vais ici mettre les phrases de façon interrogative pour que vous aussi, vous puissiez y répondre. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un couple soit intime si chacun vit encore chez ses parents? Un peu l'opposé de ce que ce verset nous dit. Peut-on imaginer qu'un couple soit intime, soit un, si chacun vit, pas chez ses parents, mais tout seul dans son appartement? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un couple soit intime, si chacun accorde plus d'importance à soi-même, à sa personne, à son confort personnel, avant l'autre? Est-ce que c'est possible? Et je pense que la réponse à ces questions, c'est non. Pour être un avec sa femme, son mari, ce sont des choses qu'il faut laisser, qu'il faut quitter, que ce soit de la famille à ses propres intérêts, car c'est les intérêts de l'autre qui passent avant et plus les nôtres. Bon, évidemment, ici, comprenez-moi bien, je veux pas dire qu'il faut couper les ponts avec la famille, il faut plus voir la famille du tout, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut continuer à entretenir des bonnes relations avec sa famille même après le mariage, mais c'est vraiment ici l'idée, l'essence dans ce verset qui dit que voilà, mais c'est Dieu qui dit si l'homme il reste chez ses parents, il pourra pas être un, il pourra pas être intime avec sa femme, son mari. Et c'est ça aussi, c'est l'enseignement qu'on doit prendre pour nous, c'est que avec Dieu c'est la même chose. Si on veut vraiment être un avec Dieu, être intime, mais avant de pouvoir être un, d'être intime avec lui, il y a des choses qu'on doit laisser, il y a des choses qu'on doit quitter. Et quelles sont ces choses qu'on doit peut-être quitter, qu'on doit peut-être laisser pour être un avec Dieu? Ben, le péché, il y a certaines actions qu'on fait, ça peut être même au début ou même encore après récurrent dans notre vie, et ce sont des choses que Dieu... nous demande de ne pas faire et nous on les garde parce que soit on apprécie ou on veut continuer à les faire. Et Dieu nous dit, voilà, si tu veux être un avec moi, si tu veux être intime avec toi, avec moi, il y a des choses que tu dois laisser, certaines choses que tu dois quitter. Donc ça peut être le péché, ça peut être une relation qui a une mauvaise influence sur nous, quelque chose vraiment qui nuit à notre intimité avec Dieu parce qu'on est attaché à cette chose-là. Ou simplement une ancienne habitude qui n'est pas saine et on reste attaché à cette habitude. Il y a certaines choses qui sont dans nos vies et qui ne sont pas bonnes pour nous. Il y a certaines choses qui sont dans ta vie et qui ne sont pas bonnes pour toi. Et Dieu vraiment t'appelle à être plus intime avec lui. Dieu vraiment t'appelle à être un avec lui. Mais si tu ne quittes pas ces choses, certaines choses, tu ne pourras pas aller plus loin, tu ne pourras pas être vraiment un avec Dieu. Et voilà, je pense que c'est notre rôle à chacun dans notre vie personnellement de nous analyser. Je ne pense pas que c'est mon rôle de vous dire qu'est-ce que vous devez quitter ou quelles sont les mauvaises choses dans votre vie. Je pense que voilà, chacun, on se met devant Dieu et voilà, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui m'éloignent de toi? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais couper, quitter pour vraiment être plus proche de toi? Vous savez, dans la parole, il y a aussi cet autre verset qui dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Tu coupes, tu arrêtes, tu quittes ce qui n'est pas bon, ce qui t'éloigne de Dieu, parce que c'est mieux pour toi d'avoir un œil en moins que de pas être intime avec Dieu. Vous comprenez cette idée de vraiment quitter, de laisser, de couper quelque chose? Et donc on a ces trois points: connaître, être attentif, quitter. Et ici, je vais arriver dans la conclusion et je vais demander si les musiciens peuvent revenir et jouer quelque chose de doux en arrière-plan pendant qu'on fait la conclusion. Rien ne te sera impossible si tu es un avec l'Éternel. On voit ce verset et c'est Dieu qui parle, c'est vraiment impressionnant, c'est Dieu qui parle, qui dit: les voici qu'ils forment un seul peuple et ils ont une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et c'est un peuple qu'on a vu, qui est orgueilleux, qui n'a pas une bonne attitude, mais rien ne leur sera impossible parce qu'ils sont un, parce qu'ils sont unis. À combien plus forte raison, nous, si nous sommes un avec l'Éternel, si nous sommes intimes avec lui, rien ne sera impossible dans notre vie. À combien plus forte raison. Et comme nous avons vu, Dieu est un Dieu souverain qui a contrôle sur les situations, qui a contrôle sur toutes choses. Et si tu es un avec lui, si tu es vraiment intime avec lui, aucun obstacle ne pourra t'arrêter, aucune épreuve ne sera trop dure à surmonter, aucune difficulté ne pourra te laisser au fond. Si tu es un avec lui, de grandes choses vont arriver, de grandes choses pourront être accomplies. Et peut-être c'est ce que tu as besoin dans ta vie. Peut-être tu réalises que voilà, tu as délaissé ces derniers temps ton intimité avec Dieu. Je ne connais pas ta situation, mais vraiment, Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle à être un avec lui, à être intime. On a vu ensemble trois points. Comme je vous ai dit, il y en a certainement plus qu'on pourrait méditer, mais ce matin, on a vu ensemble trois points. Le connaître plus, être attentif à sa voix et quitter, laisser certaines choses qui nous empêchent d'aller à lui. Dieu est souverain, Dieu contrôle, Dieu a le dernier mot sur nos vies. Mais si nous ne faisons pas ce pas, on a la responsabilité de faire ces choix, de vouloir plus le connaître, de vouloir être attentif, de quitter les choses qui nous séparent de lui. On a cette responsabilité et c'est à nous de se mettre en action et d'aller vers lui. Je voudrais vraiment vous inviter, on va courber nos fronts et on va prier ensemble, demander à Dieu vraiment qu'il nous aide à être un avec lui, à être plus intime avec lui. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où tu te trouves bloqué, où tu ne comprends pas ce qui se passe, où tu n'y arrives pas, tu as l'impression que tu es... Que ce qui t'arrive est insurmontable, mais tu sais quoi, si tu es un avec l'Éternel, rien ne te sera impossible. Oh, des épreuves, il y en aura, des difficultés, il y en aura, mais si tu es un avec lui, tu pourras les surmonter, tu pourras aller de l'avant, tu pourras te relever et continuer ta marche. Seigneur, je te remercie pour ces instants. Je te remercie parce que tu es présent dans ce lieu. Et maintenant, je te demande, Père, vraiment que tu nous aides à comprendre cette parole, à comprendre ces versets, à comprendre cette pensée, Seigneur. Nous voulons être un avec toi. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons être plus intimes avec toi, Seigneur. Père, aide-nous à vraiment vouloir plus te connaître, à prendre du temps dans ta présence, à méditer ta parole pour plus te connaître. Aide-nous à être attentifs à toi, à reconnaître ta voix, à être tellement proche qu'on sait quand c'est toi qui parles, on sait quand c'est toi qui nous interpelle. Père, aide-nous à quitter les choses qu'on est encore attachées, mais qu'on sait que c'est pas bien pour notre vie. Seigneur, tu nous aides et tu es celui qui nous permet de quitter ces choses et d'aller vers toi pour être un. Seigneur, vraiment, je veux te prier que tu puisses mettre ce désir en nous d'être un avec toi, que tu puisses l'augmenter, qu'on puisse développer cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon avec nous.
On va se mettre debout, on va chanter Dieu puissant, on va chanter.